60e numéro de votre magazine littéraire ce soir sur Radion. Bonsoir à vous toutes et tous et merci pour votre grande fidélité. J'aurais pu l'accueillir à bord de Wagon Livre depuis longtemps. En effet, en 2010, il a obtenu le Grand Prix Festilivre Bourgogne à Moneto pour un ouvrage dont nous allons amplement parler ce soir, un ouvrage intitulé « Les historiettes des granges Raffoux » paru aux éditions Vaillant. Il est donc ce soir devant notre micro et je suis très heureux de t'accueillir, Sylvain Lunati, qui est en compagnie avec nous jusqu'à 22h. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir Yannick.
Alors, on va parler un peu de toi. D'abord dire que tu habites en région parisienne, tu enseignes l'italien en région parisienne dans un lycée, tu es agrégé d'italien et te voilà propulsé sur la scène des auteurs débutants, je peux le dire, et ce n'est pas dévalorisant, avec donc les historiettes des granges Raffoux. Est-ce que ce désir d'écrire un ouvrage trottait dans ta tête depuis longtemps ?
Depuis longtemps, non. J'ai commencé exactement la première histoire en 2007, en août 2007. Et il m'a fallu 3 ans pour écrire l'intégralité du livre.
Alors, quels sont les liens que tu entretiens avec la Bourgogne ?
Alors, c'est très simple. Des liens très forts, des liens familiaux, puisque ma mère est du Nivernais et pendant toute mon enfance, nous passions au moins un mois l'été dans la maison familiale de la Nièvre, dans le centre de la Nièvre.
Pas très loin de Prémery, finalement.
Exactement, à 2 kilomètres exactement de la petite ville de Prémery.
Par conséquent, l'écriture est aussi l'opportunité peut-être de secouer la nostalgie d'une enfance dans ce que tu appelles, je te cite, ce beau département de silence qu'est la Nièvre.
Absolument, tout à fait. J'ai voulu, par l'intermédiaire de l'écriture, me souvenir de ces moments d'enfance qui étaient absolument magiques pour moi.
Il me semble important pour nos auditrices et auditeurs d'expliciter le titre de ton livre, « Les historiettes des granges Raffoux ». Alors Raffoux, c'est rat, hein, comme l'animal, le rat, et fou, dément, fou et fauu. « Les historiettes des granges Raffoux », donc paru aux éditions Vaillant. Alors d'abord, pourquoi des historiettes ? Parce que c'est un clin d'œil littéraire.
Tout à fait. Alors, historiettes, il s'agit, j'avais en tête les fameuses historiettes d'un écrivain du XVIIe siècle, un écrivain un peu sulfureux qui s'appelait Talleyrand des Réaux, et qui a écrit les historiettes aux alentours des années 1660, si je ne m'abuse. Et cet écrivain écrivait des histoires courtes, des petites histoires, avec le suffixe « et ».
Le diminutif.
Voilà, le diminutif « et ». Pour dire que ce sont des choses sans importance, mais en réalité, dans ses historiettes à lui, il disait beaucoup de choses graves, derrière le côté un peu léger du titre historiette.
Et c'est ce que tu as voulu faire, c'est l'équilibre.
Exactement.
Quelque part entre, on peut dire, un peu d'érotisme homosexuel, érotisme, parfois des histoires qui donnent le frisson. Et puis, une gravité, puisque on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Le contexte de l'histoire, on est dans les années 2000, enfin on ne le sait pas véritablement, mais tout ce que l'on sait, c'est que ce sont des amis qui ont une moyenne d'âge de 50 ans et qui se retrouvent donc à la campagne, au lieu dit les granges Raffoux, donc petit endroit perdu dans la Nièvre à quelques kilomètres de Prémery et de Nevers. Ils se retrouvent, pour leur plus grand bonheur, et ils se retrouvent une semaine avant les résultats d'une élection présidentielle. Là aussi, clin d'œil. Bon, pourtant c'était en 2010, mais là, l'échéance s'approche. Oui. Ils se retrouvent donc, tous ensemble, une semaine avant les résultats de l'élection présidentielle, le premier tour. Et pour patienter, craignant tout de même le triomphe de la candidate d'extrême droite, ils décident, chacun leur tour, le soir, de raconter donc une histoire, une historiette, à la fois pour se divertir et aussi parfois c'est un moment de confession.
Absolument, tout à fait. Je ne pourrais pas mieux résumer. Tu l'as très bien résumé, tu l'as très bien dit.
Alors,
c'est exactement ça.
Le livre que tu as écrit, Sylvain, procède d'une démarche peut-être engagée et humaniste.
Oui, engagé, c'est-à-dire à partir de choix personnels, et humaniste au sens de générosité, on peut dire d'une certaine manière, c'est-à-dire de choix, de rapprocher les gens au-delà des différences, et voilà.
Passons en revue les personnages. Donc il y a Thierry. Alors Thierry, il a 50 ans. C'est le petit-fils d'un ingénieur des usines Lambiotte à Prémery. Donc il habite dans cette maison qui s'appelle donc la maison de l'ingénieur, au Grange Raffou. Il vit seul, enfin pas tout à fait seul, avec son compagnon cuisinier, qui est son amant, le beau Narcisse. Et Thierry, donc, va recevoir différents amis. Alors il y a un personnage féminin. Mais je n'en dis pas plus. Un personnage totalement...
Pas tout de suite, oui.
Un personnage totalement excentrique, oui. Tout droit sorti du beau royaume du Danemark et voilà. Qui s'appelle Frédéric.
Voilà, c'est ça,
alors,
Frédéric.
L'arrivée de Frédéric à la gare de Nevers est absolument extraordinaire. Oui, c'est une réussite de fantaisie. Elle est complètement fantasque.
Oui, oui, exactement. Tout à fait.
Alors, un petit mot peut-être sur cette luthérienne venue de l'Europe septentrionale.
Exactement, une luthérienne qui ne ressemble pas tellement au personnage qu'on peut rencontrer tous les jours dans les rues de Copenhague, mais c'est quelqu'un qui est et qui se prend pour la reine du Danemark en personne. Simplement parce qu'effectivement cette personne ressemble à une réelle ressemblance avec la reine Margrethe II de Danemark. Et cette personne est persuadée d'être le double de la reine.
Ce qui est extraordinaire, c'est donc tu l'as fait arriver à la gare de Nevers. Thierry va la chercher en voiture, je crois que à bord d'une Fiat.
Oui.
Et
oui,
il traverse, je ne sais plus quel village, au moment le jour de foire. Et donc on voit les trognes des provinciaux, des paysans qu'on imagine peu rougeaux et rustres. Regardez cette Frédéric complètement excité qui fait des coucous et qui se prend pour une reine.
Ça,
c'est extraordinairement drôle.
Exactement. Oui. Elle est dans la voiture et elle fait des petits signes comme si elle saluait la foule, comme si elle saluait son propre peuple. Quoi. Voilà.
Alors parmi les invités, il y a Jackie. Alors Jackie, c'est un réalisateur de films porno.
Oui.
Alors lui, il fait dans le porno ethnique et il faut signaler que si Frédéric est luthérienne, danoise, lui, il est d'origine, enfin de confession juive.
Exactement.
De naissance, même s'il ne revendique pas spécialement sa judaïté.
Oui.
Mais il est juif. Alors ensuite, il y a François. Alors François, lui, est d'origine suisse. C'est vraiment l'Europe qui se donne rendez-vous au Grange Raffou.
Oui.
C'est un homme d'affaires dans l'immobilier. Et puis, il y a l'homme du tango, l'Argentin, Guillermo.
Ouais.
Et voilà donc tous ses amis réunis. La Nièvre devient tout d'un coup le centre d'une Europe où même... disons le lieu où le cosmopolitisme se tisse, et chacun va devoir donc partager une histoire en attendant le résultat du premier tour des élections présidentielles. Et ces histoires doivent prendre, Sylvain, différentes couleurs selon finalement le dénouement. Il y a trois types d'histoires.
Exactement.
Les noires, les histoires rouges et les histoires roses.
Exact.
Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix des couleurs et finalement leur signification?
J'ai voulu donner à chaque histoire le côté de l'oralité. C'est-à-dire que ces histoires, comme tu disais au début, sont racontées, ce sont des gens qui parlent, qui racontent devant d'autres personnes. Donc quand on écoute des histoires, j'ai voulu que, avant la fin, avant la chute, qu'on ait une idée du genre d'histoire. C'était une histoire ou noire, c'est-à-dire une histoire qui finit mal, une histoire rouge, une histoire qui finit dans la violence, ou bien ou mal, mais en tout cas où il y a de la violence, et une histoire qui finit bien, une histoire qui termine dans le rose, enfin, où on est à peu près sûr dès le début que ça se terminera bien. Et j'ai tenu à ce que l'on sache dès le début de quelle catégorie il s'agit.
Tu annonces la couleur.
J'annonce
en fait
la couleur, voilà, je l'ai fait exprès pour autant faciliter la lecture que la compréhension de gens qui écoutent.
Et puis c'est une façon aussi de donc donner la couleur et de maintenir un suspense.
Exactement.
Inévitablement, pour mettre à la fois les auditeurs du salon de la Maison de l'Ingénieur et les lecteurs dans l'attente.
Tout à fait.
Oui. Nous, on se retrouve, Sylvain, si tu le veux bien, d'ici quelques minutes. On va marquer un premier intermède musical. Alors, c'est toi qui as fait ce soir le choix des pauses musicales. Et là, on va rentrer avec douceur et bonheur dans des arias.
Exactement.
On va écouter une aria. Je te laisse nous présenter le titre que tu nous proposes, Sylvain.
Alors, mon premier choix musical, il s'agit de quelque chose qui me tenait à cœur. Je pensais que ça pouvait également plaire à Yannick en premier. Il s'agit d'un extrait de La nemica d'amore fatta amante de Giovanni Bononcini. Il s'agit d'un opéra court de 1693 avec un fameux aria de contre-ténor. Il s'agissait d'un aria pour les fameux castrats de la fin du XVIIe siècle. Et cet aria se situe presque à la fin de l'opéra. Le titre est « C'est un grand piacere pour faire mourir, si un grand plaisir peut faire mourir », chanté par le personnage principal, qui était donc un contre-ténor et qui était à l'époque un castrat.
Il mio conto
Retour à bord de Wagon Livre après cet intermède musical choisi par notre invité. Notre invité, c'est l'auteur des historiettes des Granges Raffou et c'est Sylvain Luinati, agrégé d'italien et auteur, et qui nous fait le plaisir ce soir d'être en notre compagnie devant le micro de Wagon Livre, votre magazine littéraire, je rappelle, chaque mercredi à 21h sur l'antenne de votre radio locale. Sylvain, nous avons posé, je crois, le cadre et un peu le décor de ces merveilleuses historiettes. Sais-tu d'ailleurs que tu as expliqué que tu t'étais inspiré des historiettes de Talmant des Réaux? Figure-toi que Louis-Ferdinand Céline adorait les historiettes de Talmant des Réaux.
Ah, je ne savais pas.
Ah bon, Céline, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment dans l'optique idéologique que tu as voulu,
non,
en tout cas, soutenir dans ton livre.
Même à l'opposé.
Il y a notamment un clin d'œil à Jean Genet, parce que le personnage principal, celui qui reçoit dans la maison de l'ingénieur au lieu-dit les Granges Raffou, qui se prénomme Thierry, je réexplique à nos auditeurs, donc il vit avec son cuisinier et amant qui se prénomme Narcisse. Thierry va un soir lui raconter, on peut dire, une histoire familiale. Je dirais même qu'il va confesser un secret que son grand-père, ingénieur donc aux usines Lambiotte à Prémery, a lui-même confié à son petit-fils. Et là, clin d'œil à Jean Genet, parce que le grand-père de Thierry était un enfant de l'assistance publique. Tu parles bien sûr de Jean Genet, qui a vécu à Ligny en Morvan pendant quelques temps, élevé par une paysanne généreuse et sympathique, avant que le petit Jean Genet ne commette moult larcins, forfaits, et se retrouve aussi dans les bagnes d'enfants, puisque ça a été une réalité dans notre pays, à Maitrey, tout à fait.
Oui.
Et beaucoup d'érotisme dans la première historiette. Et j'ai presque envie que tu... Pourquoi as-tu mêlé finalement les souvenirs de l'occupation avec l'érotisme lié au corps des soldats allemands qui occupaient la Nièvre comme un grand nombre de départements français? C'est étrange ce mélange entre finalement une phase un peu dramatique de l'histoire de la France, l'occupation allemande, et cet érotisme qui vient comme ça...
C'est-à-dire que je me suis permis d'écrire sur cette époque douloureuse parce que nous sommes dans les années 2000 et parce que moi-même je suis né après la Seconde Guerre mondiale. Donc il s'agit de quelque chose que l'on m'a raconté moi-même et que j'ai pu améliorer, entre guillemets. Donc avec le temps, je pense que la chose perd beaucoup de, comment dirais-je, de son caractère un peu sulfureux, entre guillemets. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, que les officiers allemands étaient très beaux dans leurs uniformes. Je crois que c'est quelque chose de reconnu, et c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire que ça, que la beauté, au-delà, il n'y avait pas d'ennemis ou d'amis. Quand on reconnaît qu'une personne est attirante, elle l'est, point final. Voilà. Des acteurs, des gens très connus de l'époque l'ont dit, par exemple Arletty, qui l'a dit, effectivement. Elle s'est mise en danger à l'époque, puisque, bien entendu, c'était en plein dans l'action, si j'ose dire. Mais moi, j'ai voulu dire que pendant la guerre, certains témoins, certains Français, au-delà du clivage et du fait qu'on était ennemis avec les Allemands, reconnaissaient la supériorité esthétique, on va dire, des Allemands. Voilà ce que je voulais dire.
Il y a quelque part, peut-être, un clin d'œil au Silence de la mer, ce texte de Vercors où il est question quand même de l'amour entre ennemis, et c'est un peu ce dont il est question, quelque part, entre cet homme, cet ingénieur des usines Lambiotte, qui tout de même, et qui est pourtant un homme marié, et qui n'est pas insensible à la beauté de Rainer, le beau sous-officier de la Wehrmacht.
Oui, j'ai voulu simplement dire que l'attirance était plus forte que le fait d'être ami ou ennemi en temps de guerre, et qu'il y avait des sentiments plus forts que les clivages politiques. Voilà.
Afin de bien rendre compte de l'érotisme dont est teintée la première historiette, Sylvain, peux-tu, alors c'est à la page 48, nous lire le passage de cette historiette, passage qui raconte de quelle manière donc cet ingénieur des usines Lambiotte, par la fenêtre de son bureau, voit dans la cour de l'usine des Allemands en train de se livrer à des exercices de gymnastique. Et j'ai là, Sylvain, s'il te plaît, je te laisse lire ce texte pour nos auditrices et auditeurs.
Alors, je tiens à dire tout d'abord qu'il y a un fond de vérité historique à cet épisode. C'est-à-dire qu'on m'a raconté qu'effectivement, les Allemands, pendant la guerre, faisaient des exercices physiques, de la gymnastique. Ils étaient plus avancés que nous. Le sport était très important pour eux. Et ils le faisaient nus. Ils sont une vingtaine au moins à suivre en cadence les mouvements imposés par leur instructeur. Un type torse nu, en short, jambes écartées, et qui lui tourne le dos. Les mots des exercices sont secs, brutaux. Les soldats s'exécutent dans un ordre parfait. De là où il est, il distingue des petits sexes qui dansent. Les corps exhalent une virilité inconnue. Il en est bouleversé. Il regarde, les yeux fixes, comme hypnotisé, pendant un long moment encore. Puis il redescend, appréhendant le moment où il devra sortir à découvert dans la cour, sous le regard des hommes étrangers, surpris dans un moment qui n'appartient qu'à eux. Mais les soldats, tout appliqués à leur tâche, ne lui prêtent aucune attention. L'âne connaît le chemin pour remonter au rang Rafou, ce qui lui laisse tout le loisir pour méditer sur ce qu'il vient de voir. Car mon grand-père était un homme de réflexion, pas du genre à se laisser surprendre par des émotions. Qu'avait-il vu de si nouveau? Une chose qu'il se refuse à qualifier de bouleversante. Il pense avoir trouvé une réponse rationnelle au trouble qu'il ne peut supporter. Mais oui, c'est ça. Ces Allemands étaient les continuateurs des Grecs. Offrir leur sexe à la vue de leurs semblables impliquait de le dérober à la vue des autres, les barbares, les indignes, les impurs. Les sexes allemands comme preuve indiscutable de leur civilisation avancée. Et lui, le Pierre des Granges Rafou, qui avait découvert le rite secret de la secte, lui dont le sexe se morfond dans une solitude honteuse. Non, cette nudité-là ne doit pas être troublante, pour peu qu'on soit allemand. Ce grand gaillard tout blond, au milieu des autres, plus brun, ses poils blonds qui tournent au roux sur le ventre, s'habite. Il l'exhibait en toute innocence. Sous les frondaisons de la forêt domaniale de Brémerie, dans l'odeur des fougères, l'ingénieur ne sut écouter son corps qui, pour la première fois, lui parlait. De retour au Grange Rafou, entre les peupliers, il vit pointer la haute toiture de sa maison avec soulagement. L'Olympe était dans la cuisine. Elle lui préparait ses grappiots qu'il aimait tant. Il se dit qu'il avait de la chance.
Merci Sylvain, c'est donc un extrait de la première historiette, donc confession du petit-fils racontant à ses amis réunis dans le salon de cette maison au Grange Rafou, racontant donc les pulsions de ce grand-père qui n'était pas insensible à la beauté des corps de ces Allemands pendant l'occupation qui faisaient donc de la gymnastique nue. C'est aussi, tu mets peut-être aussi le... J'allais dire les pieds dans le plat, pour utiliser une expression familière, c'est une manière d'aborder le thème de l'homosexualité cachée de ceux qui se sont mariés et qui n'arrivent pas ou n'ont pas eu, alors je ne sais pas, le courage ou ont eu peur du regard de la société, n'ont pas eu le courage de revendiquer leur choix sexuel.
Oui, oui. Je pense qu'on a toujours tendance à revisiter les époques passées au regard et à l'expérience des jours d'aujourd'hui. Mais je pense que les choses ont tellement évolué en 50 ans, en un demi-siècle, infiniment plus qu'en plusieurs siècles. C'est ce que je me suis permis de dire en plus dans cette nouvelle. C'est que les années 40, véritablement, c'est une époque éloignée de la nôtre, où certaines choses, certains concepts, certains mots étaient tellement entachés de tabous, de honte, qu'on ne les prononçait jamais, et que les choses restaient dans le non-dit, sans pour cela que certaines pratiques et certains rapprochements soient absents, évidemment.
On se retrouve d'ici quelques minutes, Sylvain, avec une pause, une nouvelle pause que tu as choisie. Alors, que nous proposes-tu cette fois-ci, s'il te plaît ?
Alors, je propose une chanson d'une chanteuse qui était très importante pour moi. Il s'agit de Dalida. Je me souviens très bien du jour de sa mort, figurez-vous. Je l'ai appris à la radio et alors vraiment, c'était quelque chose de vraiment. J'ai été très triste ce jour-là. J'ai choisi parmi les chansons de Dalida une qui a fait grand bruit. En 1979, les paroles, je crois, sont de Pascal Sevran. Le titre de la chanson est « Depuis qu'il vient chez nous ». Vous verrez avec quel tact et avec quelle émotion cette chanteuse parle de certaines choses, c'est-à-dire parle de son mari qui, visiblement, a une relation avec un jeune homme de leur entourage, un ami de la famille.
Je te regarde vivre, moi qui te connais bien, je te reconnais plus. Dieu, que tu as changé depuis qu'il vient chez nous. Ça fait bientôt 10 ans que nous vivons ensemble. Toi qui me disais tout, tu te caches de moi. Dieu, que tu as changé depuis qu'il vient chez nous. Tu n'as plus la même tête. Dès que tu entends sa voix, tu te troubles, tu t'inquiètes. Quand il s'approche de moi, si sa fantaisie m'amuse, toi tu cherches des excuses pour rester quelques secondes seul avec lui. Si sa jeunesse t'attire, pourquoi ne pas me le dire? Est-ce déjà trop tard aujourd'hui? Quand nous faisons l'amour, dis-moi à qui tu penses. Il y a sous nos caresses des points de suspension. Dieu, que tu as changé depuis qu'il vient chez nous. Toi, équivoque aux yeux d'adolescence ont posé leur brouillard sur notre intimité. Dieu, que l'on a changé depuis qu'il vient chez nous. Depuis qu'il vient chez nous.
Radion. Radion. Nous nous retrouvons à bord de Wagon Livre ce soir en compagnie de Sylvain Luinati. Il est notre invité. Je rappelle qu'il est professeur agrégé d'italien et il est l'auteur des historiettes des Granges Rafoux parues aux éditions Vaillant. Sylvain, tu l'as dit au début de l'émission, ces textes, ces historiettes ont été aussi pour toi l'occasion d'agiter la nostalgie, les souvenirs de l'enfance passée à la campagne et notamment dans les environs de Prémery, près de Nevers. Alors on visite agréablement la Nièvre. Certes, il y a ces histoires qui ponctuent bien évidemment l'attente des résultats de l'élection présidentielle. Alors on visite tous ces petits villages pour atteindre ce lieu dit mystérieux qui s'appelle les Granges Raffoux. Alors il y a Narcy, les Bertins, Murlin, les Ponts de Beaumont, Beaumont-la-Ferrière. Et puis il y a tous les éléments du patrimoine environnemental ou architectural. Ce sont les Charolaises, tu parles de la foire de Corbigny, de Saint-Honoré-les-Bains, de l'église Saint-Révérien qui est une des plus belles églises romanes de la Nièvre. Et puis tu évoques aussi Nevers. Alors il y a une adresse de sauna d'ailleurs qui est donnée aussi à Nevers. Et tu parles du quartier des Faïenciers, de Saint-Gildard de Nevers, où repose une sainte femme.
Bernadette Soubirous.
Clin d'œil aussi, puisque nos cinquantenaires vont visiter le Mont Beuvray, Bibrac, la capitale des Éduins. Et tu parles de Château Chinon. Et quand on parle de Château Chinon, on a le souvenir de François Mitterrand. Et tu dis de François Mitterrand, je te cite, « un président de la République éclairée qui a œuvré pour mettre fin à notre malheur ». Ça, c'est un des personnages qui dit cela. Alors, tu es Mitterrandolâtre ? Tu l'as été, tu as eu la tontomania à une époque.
Plutôt, je l'ai été. Dans les années 80, il est clair que ce président représentait l'avenir, représentait un espoir, surtout pour les gens qui, à l'époque, avaient 24 ans, 25 ans. Il a représenté une coupure, il a représenté un espoir, une espèce de vie plus libre au niveau des mœurs, et pas seulement d'ailleurs. Donc effectivement, je tenais à le rappeler, exactement. Dans les années 80, ça a été un progrès, à mon avis, incontestable au niveau des mœurs, à l'élection de Mitterrand.
Il y a eu cette dépénalisation de l'homosexualité avec la gauche socialiste des 80-82.
Exactement, voilà,
82.
C'était le souvenir précis que je voulais évoquer. Oui.
Et puis on a entendu Dalida il y a quelques minutes. Dalida a été aussi un grand soutien de François Mitterrand. Alors, revenons à des considérations plus économiques et historiques. Tu soulignes, tu rappelles à un moment dans les historiettes des Granges Raffoux que l'industrie métallurgique française est en partie née dans la Nièvre.
Absolument. On oublie que ce département du centre de la France, le département de la Nièvre, qui recouvre à peu près l'ancien duché de Nivernais, était à l'avant-garde dans beaucoup de domaines. Le roi Louis XVI, par exemple, avait fondé ce qu'on appelait les forges royales à Guérigny. Guérigny est une petite commune pas tellement loin de Nevers. Donc des progrès dans l'industrie, des progrès au niveau scientifique étaient localisés dans ce département de la Nièvre qui n'était pas, loin de là, qu'un département rural. C'était un département où il y avait une industrie réelle, sans parler ensuite, à la fin du XIXe siècle, des usines Lambiotte que j'évoque à Prémery, puisqu'il s'agissait d'une des premières usines françaises, carrément françaises au niveau national, de l'industrie chimique à partir des produits du bois et du charbon de bois, surtout.
Et ces usines Lambiotte, à l'heure actuelle, existent-elles toujours ?
Alors, elles ont été fermées en l'an 2002, exactement. Elles ont été reprises, si je ne m'abuse, par un consortium étranger, allemand, il me semble, ou belge. Mais je pense qu'en ce moment, elles sont un peu endormies, elles sont un peu au ralenti. Ce n'est plus du tout l'activité qui existait jusque, on va dire, surtout dans les années 60-70, qui était la grande époque.
J'ai particulièrement apprécié les clins d'œil littéraires. Tu évoques notamment, dans le village de Beaumont-la-Ferrière, un homme que tu sembles apprécier. C'est le folkloriste Achille Millien.
Tout à fait. Je me suis intéressé à ce personnage parce que, personnellement, et ça depuis toujours, je me suis intéressé au conte de fées, à la structure du conte. Je me suis intéressé donc à la culture dite populaire, à la culture orale. Comme je disais avant, je me suis intéressé à l'oralité de la littérature. Et cet écrivain, ce folkloriste, comme on disait alors, a retrouvé des contes très anciens qui seraient plus spécifiquement nivernais, qui seraient plus spécifiquement plus de sa région, ou la région de Prémerie, ou la région des Amognes. Les Amognes, c'est une région qui est un peu plus près de Nevers, un peu plus au sud. Il a trouvé des contes qui étaient véritablement nés là, il y a plusieurs siècles auparavant. Par exemple, il y a une version tout à fait locale et tout à fait intéressante du Petit Chaperon Rouge, qui est local, qui serait, selon lui, hein, je ne suis pas un spécialiste plus que ça, mais qui serait, selon Achille Millien, un conte qui viendrait carrément de la Nièvre, qui viendrait du Nivernais.
Achille Millien qui a été finalement un peu méprisé par oui. L'élite ou l'intelligentsia parisienne.
Tout à fait, parce qu'il n'arrivait pas au bon moment. C'est-à-dire que s'intéresser aux contes, s'intéresser au parler des terroirs était quelque peu démodé. Déjà au début du XXe siècle, pardon. Donc il a été effectivement oublié très vite.
Rappelons qu'Achille Millien est mort en 1927, pour information. Oui. Autre clin d'œil aussi, cette fois-ci pictural, à Alfred Garcement.
Oui.
Apparemment, alors personnellement pour moi un illustre inconnu,
oui.
qui a vécu dans un tout petit village de la Nièvre qui s'appelle Varzy.
Tout à fait. Alors simplement j'ai vu quelques tableaux de ce peintre qui était de cette région du Nivernais. Et dans ces tableaux, il représente la campagne hivernaise dans ce qu'elle a de plus typique, c'est-à-dire le bocage, c'est-à-dire les petites maisons, les villages typiques de cette région. J'ai voulu, d'une certaine manière, lui rendre hommage parce que moi-même, je suis très sensible. Campagne très particulière qu'est la Nièvre, une campagne de bocage, une campagne de prairies, et pas du tout une campagne d'agriculture et de champs cultivés.
On va, si tu le veux bien, Sylvain, marquer un autre intermède musical. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes avant qu'on évoque à nouveau les historiettes des Grands Girafous, donc ouvrage de Sylvain Louis Natty, paru aux éditions Vaillant.
J'ai choisi une chanson du chanteur Jean Guidoni, et que l'on n'entend plus, malheureusement, depuis quelque temps. C'est un chanteur que je connais. J'ai assisté à ses spectacles plusieurs fois à Paris. Dès qu'il se produisait dans une salle, j'y allais. J'étais très sensible à son charisme, qui était évident sur scène. Et j'ai choisi plus particulièrement une de ses chansons, qui s'appelle « Il y a un climat », une chanson qui date de 1994.
Il y a des jours, je me dis, il y a un climat, quelle drôle de vie. Il y a des jours dérisoires où je pleure de rire dans mon mouchoir. Il y a des jours, je me dis, il y a un climat, ça vagabonde. Il y a des jours dans Paris, ça vague à l'âme, ça vague à Londres. Il y a des jours, je me dis, il y a un climat, il y a un feeling, un truc anglais, un truc en cheese. Je voudrais épouser la Tamise. Alors je m'écris des lettres de tendresse, puis-je pas sans laisser d'adresse. Je joue du cœur, je joue du poing, je m'aime trop certain. Il y a des jours, je me dis, il y a un climat, il n'y a pas à dire. Oh, il y a des jours d'avarie, à se faire sauter la pompe à vie. Il y a des jours, je me dis, il y a un climat de fin du monde. Cette nuit sera ta dernière nuit, ta dernière bière, ta dernière blonde. Alors je m'écris des lettres de menace et je me suis à la trace, pas à pas, haut les mains. Je me hais certains matins, certains matins. Alors je me dis, j'ouvre les vannes, je rêve d'être un deltaplane. pour m'envoler au-dessus du monde. Une trompette à la main, une trompette à la main. Il y a des jours, je me dis, il y a un climat dans mon quartier, une odeur de tartine au beurre qui fait des yeux dans mon café. Il y a des jours, je me dis, il y a un climat, il n'y a rien à faire. À quoi ça sert de faire l'amour si l'amour se prend pour la guerre? Alors je m'écris des lettres anonymes, pleines d'amour et de cris, de sang et de satin. Je déconne certains matins. Alors je rêve d'une ville sans soleil, où j'aurais plus peur de mon ombre. Je crache au ciel, je crache sur rien. Je m'écœure certains matins. Alors je me dis, ferme les vannes, je revends mon delta plane et je m'écrase comme tout le monde, un whisky à la main. Il y a des jours, je me dis, il y a un climat, quel drôle de.
Retour avec notre invité ce soir à bord de Wagon Livre, 60e numéro de Wagon Livre. Je rappelle que les émissions, une fois diffusées, peuvent être réécoutées ou téléchargées sur le site internet de Radion, www.radion.fr. Nous parlons des historiettes des Granges Raffaut, donc de notre invité. Sylvain, le professeur d'italien, a souhaité rappeler combien les langues jouait un rôle colossal, forcément, dans la communication entre les êtres humains, parce que, au cours des 6 historiettes, on a dit que les différents, d'ailleurs, auteurs des historiettes avaient des origines extrêmement variées, et puis des confessions religieuses, elles aussi, très variées. Et Frédéric, je reviens à Frédéric, la sosie de la reine du Danemark. Alors, la langue danoise, apparemment, tout le monde se tutoie. Le vouvoiement n'existe presque pas. Sauf.
Exactement,
pour...
comme en anglais.
Oui.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Je connais très peu la langue danoise, mais je la connais suffisamment pour savoir que c'est une langue où les gens sont beaucoup plus proches les uns des autres, où la langue est d'une certaine manière plus démocratique, entre guillemets. Je parle de la langue moderne, parce que cette langue a énormément évolué au fil des siècles. Je parle de la langue actuelle.
Alors j'allais dire défense et illustration des langues. Frédéric a pu améliorer son niveau de français grâce à une famille marocaine, paradoxalement. Il y a ensuite, dans la première historiette, entre ce français, l'ingénieur des usines Lambiotte, et ce sous-officier de la Wehrmacht, Rainer, bien sûr, il y a cette attirance mutuelle, enfin cette ambiguïté de l'attirance, mais aussi parce que l'un et l'autre est un esthète. Mais ce qui est aussi très, très amusant, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que la langue sert à rapprocher, enfin c'est le premier élément. Quand on ne réussit pas à communiquer, on se contente peut-être de la communication non verbale, pourquoi pas celle des corps ou alors la peinture. Et c'est ainsi, on le suppose, que l'ingénieur va apprendre l'allemand, c'est aussi un peu grâce à l'amour. L'amour est-il à apprendre des langues, Sylvain? Alors, c'est l'amour de l'Italie qui t'a conduit sur le chemin de l'enseignement de l'italien.
Oui, comme tu disais au début, effectivement, je suis italieniste de métier. La langue italienne fait partie de ma vie, c'est peut-être même l'élément le plus important, l'élément qui a construit ma vie depuis des temps, depuis que je suis très très jeune, puisque par mon père je suis d'origine italienne, et ça a été comme une révélation. Très très jeune, j'ai su que je serais prof d'italien, ça a été le point peut-être le plus important, le plus sûr, un point d'ancrage sur lequel je n'ai jamais eu de doute. Mais je voulais dire aussi que quand on est professeur de langue, c'est que on a un besoin de se projeter dans un autre monde. C'est-à-dire que le monde sonore, une langue étrangère, c'est un univers. Et les gens qui aiment les langues étrangères, c'est que peut-être ils ne sont pas satisfaits du monde dans lequel ils vivent, et qu'ils ont besoin de se projeter ailleurs, dans un ailleurs qu'ils espèrent peut-être meilleur. Et comme on dit, le champ du voisin est plus vert que le sien. Donc j'ai voulu dire simplement, dans cette nouvelle que tu évoques, que l'intérêt pour la langue allemande signifie que peut-être le besoin d'une personne pour se projeter dans un univers qu'il espère meilleur que l'univers qu'il connaît, dans lequel il n'est pas si bien, si bien intégré. Et partout dans mon livre, j'évoque une trentaine de langues. Et c'est un élément de ma personnalité, ce besoin que j'ai toujours d'aller voir ailleurs, de penser qu'ailleurs, par le truchement d'une langue, d'un langage étranger, eh bien, j'apprendrai des choses, et que je serai mieux, et que je serai heureux de découvrir d'autres pays, d'autres gens qui ne me ressemblent pas, et que cela m'enrichit, que je rentre chez moi après nouveau.
Une des historiettes met en scène un balayeur d'origine iranienne qui est balayeur au Danemark. Bon, il retrouve un livre précieux, ce n'est pas n'importe quel livre, puisqu'il s'agit des contes des mille et une nuits, traduit en français en 1745 par Antoine Galland. Donc ce balayeur d'origine iranienne ramènera à la reine qui a perdu ce précieux livre, il lui ramène ce livre, et il sera récompensé, là encore, par le biais de la langue, puisqu'elle lui confie l'interprétariat et les traductions de la signalétique du musée à Malienborg.
Tout à fait. Il y a un fond de vérité là-dedans. Tu penses bien que si j'étais parti de quelque chose de complètement inventé, ce serait peut-être moins intéressant, et ce serait un peu gratuit. En réalité, il y a quelque chose de vrai là-dedans.
Alors pourquoi cet Iranien se trouve-t-il réfugié politique, quelque part,
tout à fait, tu
au
peux
Danemark
dire, politique. Eh bien, parce que nous sommes dans les années 2000-2005. À cette époque, le Danemark est le premier pays qui a accueilli ces Iraniens qui partaient en grand nombre dans les pays occidentaux. Et pas mal de ces Iraniens devaient quitter leur pays parce qu'ils étaient homosexuels et qu'ils risquaient la peine de mort. Je me rappellerai toujours d'un reportage qui était passé sur Canal+, où l'on voyait en direct, quasiment, le châtiment infligé à ces malheureux garçons qui n'avaient que le tort d'être homosexuels et qui étaient pendus haut et court à Téhéran. Le Danemark est le premier pays européen qui avait quelque chose et qui a reconnu l'asile politique à ces garçons qui fuyaient ce pays et qui fuyaient la peine de mort.
Une des historiettes, à mon avis, est très proche de ton parcours personnel. C'est l'historiette dont l'action se situe en Albanie.
Oui.
Une classe part en voyage découverte en Albanie, c'est en 1974. Et toi-même, Sylvain, tu as eu peut-être le bonheur de pouvoir faire partie de ces rares occidentaux qui ont été autorisés à entrer en Albanie. Et c'était en quelle année?
En 1974.
Alors, en 1974, tu es un adolescent.
J'avais 18 ans.
Tu pars en voyage scolaire en Albanie.
Tout à fait.
Alors, parle-nous-en, parce qu'il en est largement fait écho dans la nouvelle intitulée « Souvenirs de voyage, hôtel à vendre ».
Voilà. Alors, le point de départ de cette nouvelle, je peux même dire 50% de la nouvelle, est totalement autobiographique. Je n'ai rien inventé. Effectivement, j'ai fait partie du premier groupe de Français, d'Occidentaux, à pénétrer en Albanie depuis la Seconde Guerre mondiale. Puisque l'Albanie était un pays qui était très 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 fermé à l'époque, un pays pro-chinois, qui n'acceptait que les gens des pays de l'Est, et surtout des Allemands de l'Est, surtout des gens de l'autre côté du rideau de fer. Et par le fait que j'étais lycéen, dans un lycée prestigieux, parisien, un de mes professeurs était ami avec l'ambassadeur d'Albanie à Paris. Donc c'est par le truchement de ce professeur, qui était ami avec l'ambassadeur, que nous avons pu pénétrer dans ce pays.
Alors voilà, je ne peux résister à l'envie et au plaisir de te demander de nous lire le passage où il est question donc de l'arrivée de ces jeunes occidentaux en Albanie. Et là, on peut dire qu'ils vont devoir faire face, je ne sais pas comment dire, à un accueil très particulier. Oui. Et je vais te laisser la parole, Sylvain.
Voilà. Alors, je tiens à dire tout d'abord que j'étais très jeune à l'époque, j'avais 18 ans, mais dans ma tête, j'en avais 14. Hein. En plus de ça, mon bagage politique et ma formation philosophique se limitaient à quelques chansonnettes de Dalida. C'est pour te dire comme j'étais préparé et formé à apprécier toute l'étendue des avancées idéologiques que ce pays tentait d'illustrer. Voilà, donc je n'étais absolument pas préparé à ce que j'allais voir. Moi, encore moins que les autres. Moi, en tant que personne, vu ma formation, vu mes centres d'intérêt, beaucoup de mes camarades étaient très politisés, très à gauche, puisqu'à l'époque, c'était tout de même, les jeunes étaient très, très à gauche. Bon. Moi, je n'avais aucune préparation dans ce domaine, donc j'ai tout pris en pleine figure, si j'ose dire.
Voilà. Et donc, on va découvrir de quelle manière est arrivé, c'est page 144, donc comment s'est passée cette arrivée de jeunes Français en Albanie. C'est donc un extrait des Historiettes des Granges Rafoux de Sylvain Luinati.
À l'époque, en 1974, nous partions de l'aéroport d'Orly. Il n'y avait pas de vol direct pour l'Albanie. Il fallait passer par Belgrade. Nous avions passé une journée et une nuit à Belgrade, une ville tout à fait intéressante. Et à la suite de cette escale à Belgrade, nous allons arriver sur le sol albanais. Après cette plaisante escale d'un jour et d'une nuit, nous reprenons l'avion pour Tirana, capitale de l'Albanie. Dès le décollage, on perçoit une inquiétude nouvelle. Plus personne ne parle. Nous atterrissons et posons le pied sur le sol albanais. Consternation. C'est ça l'aéroport ? Mais tout de suite sur deux rangées. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Taisez-vous. Ici, on ne pose pas de questions. On ne pose plus de questions. La prof de philo baisse les yeux. Les filles disparaissent d'un côté. On saura plus tard ce qui leur est arrivé. Et nous ? On nous pousse dans une salle crasseuse. Des types patibulaires nous y attendaient. Ils nous agrippent violemment, nous tordant les bras, et nous assoient de force sur des fauteuils pivotants. Et puis, armés d'instruments que nous ne reconnaissons pas de suite, ils se mettent à nous tondre. À la fin, ils font pivoter les fauteuils, tel un balai de coiffeur diabolique, pour que nous admirions le résultat de leur œuvre dans les miroirs. Mon petit protégé a été très courageux. En sortant, parmi les cheveux qui jonchaient le sol, il a juste ramassé une de ses boucles d'or, discrètement. Oui, je dois dire que la personne qui parle, qui raconte cette histoire, c'est Thierry, donc c'est l'un des protagonistes. François, excusez-moi. Il était plus âgé que les autres et il était parti en Albanie pour accompagner ce groupe de lycéens qui était plus jeune que lui. Et il s'était un peu, on va dire, amouraché d'un des lycéens qui était reconnaissable parmi tous les autres parce qu'il avait des très beaux cheveux longs et blonds. Voilà, et la chose se termine dans le sacrifice des boucles d'or. Je continue un peu ?
Non, parce que nous allons manquer de temps, malheureusement, okay. Sylvain. Le temps tourne vite. Alors, un petit mot concernant une historiette qui nous ramène à l'époque de la Renaissance et de surcroît en Italie, au cœur même de ce foyer intellectuel de la Renaissance. Cette historiette a pour titre « La mort du Tiranello ». Je vais te demander le plus brièvement et le plus efficacement possible de nous en parler un peu aussi.
Alors, c'est d'abord le point de départ de tout le reste. C'est-à-dire qu'en août 2007, j'ai commencé par écrire cette histoire que j'ai trouvée tout à fait stupéfiante. C'est-à-dire que à une époque tout de même phare pour l'histoire européenne, qui est le tournant du 15e siècle, qu'on appelle en italien le 400, et le début du 16e siècle, qu'on appelle en italien le 500, se passait en Italie des choses tout à fait incroyables. Une énergie créatrice que l'on n'a pas retrouvée depuis sur le sol européen. C'est-à-dire qu'il y avait en Italie une dizaine de capitales d'État. Chaque capitale d'État était un centre culturel de première importance. Et parmi les personnages importants de la Renaissance, il y avait une famille qui défrayait la chronique déjà à l'époque, qui était la famille Borgia, qui ont été, dès le début, mis à l'écart de la communauté italienne, simplement parce qu'ils étaient espagnols d'origine et pas italiennes. On s'est méfié d'eux. Et dès le début, le début du pontificat du pape, donc Borgia, Alexandre VI Borgia, les chroniqueurs de l'époque ont dit les pires choses sur cette famille. Quand je dis les pires choses, c'est vraiment les pires choses, puisque l'époque était pourtant très libre au niveau des mœurs, est allée jusqu'à dire que, par exemple, la famille était incestueuse, que le père avait des relations avec sa fille, que le frère avait des relations avec sa sœur, des choses qui, tout de même, même pour les Italiens de l'époque, étaient très ouvertes au niveau des mœurs, là, c'est des choses qui ne passaient pas. Donc le contexte était celui-là, c'est-à-dire une époque qui sentait le soufre, des personnages qui sentaient le soufre, et précisément le fils, César Borgia, Cesare Borgia, qui a été l'un des personnages dédicataires du prince de Machiavel, par exemple, se retrouve face à un prince, le prince de Faenza. Faenza est une petite ville de l'Italie centrale. Et César Borgia devait faire la guerre à ce petit état afin d'agrandir le territoire du pape. Donc il doit faire la guerre. Mais les contemporains remarquent une chose tout à fait incroyable. Ce jeune prince qui avait 25 ans, qui était totalement sanguinaire, se comporte de manière assez surprenante en face de ce jeune prince qui avait 16 ans. Il est fasciné par ce personnage qui est nouveau sur la scène politique italienne. Je parle donc du prince de Faenza qui s'appelle Astorgio Manfredi. Et les contemporains, les chroniqueurs qui ont assisté à leur première rencontre disent, avancent l'idée absolument scandaleuse pour l'époque, qu'il est tombé amoureux immédiatement de ce jeune prince. Un coup de foudre. Un tel coup de foudre que cette guerre, qui devait être une guerre éclair et qui devait permettre à César Borgia de renverser ce petit état en quelques jours, la guerre a duré quasiment 2 ans. César Borgia n'a pas mis les forces à sa disposition sur le terrain, ce qui lui aurait permis d'abattre immédiatement ce petit état. Quelque chose s'est passé, quelque chose de très trouble. On pense que d'un côté il donnait des ordres à ses soldats pour au plus vite possible assaillir et donc soumettre ce petit état, mais d'un autre côté c'est-à-dire les chroniqueurs de l'époque et des historiens influents supposent qu'il donnait d'autres ordres, des contre-ordres si on peut dire, afin de déjà laisser la vie sauve à la famille princière et surtout à ce jeune prince, chose qui se faisait pas beaucoup à l'époque. Voilà, simplement parce qu'il était fasciné par ce jeune prince. Hélas, l'affaire se finit mal parce qu'il s'agit tout de même d'un Borgia, et ce jeune prince sera conduit dans l'armée triomphante jusqu'à Rome, et là l'affaire se termine très très mal. Je n'en dirai pas plus. Je pense que les lecteurs ont plaisir de voir que la fin, qui est totalement documentée, totalement historique, est une fin dramatique, on ne peut plus tragique.
C'est dans les historiettes des grands girafous, hein, c'est la cinquième historiette intitulée « La mort du Tyrannello » sous la plume de Sylvain Luinati, qui a eu la gentillesse d'être avec nous ce soir. Merci Sylvain, merci à toi. Je rappelle donc que le livre est disponible en librairie et qu'il a obtenu en 2010 le Grand Prix Festilivre Bourgogne, et c'est aux éditions Vaillant. On peut aller aussi le commander sur le site des éditions Vaillant ou le commander auprès de son libraire. Bonne soirée Sylvain et merci encore.
Merci Yannick de m'avoir accueilli pour le 60e épisode de Wagon Livre. Merci beaucoup.
Notez bien le prochain rendez-vous de Wagon Livre dans une semaine, mercredi 29 février à 21h. Nous serons en compagnie d'Henriette Landry pour son roman Mathias le Lorrain. Ce sera l'occasion d'évoquer le grand-père de notre invité, grand-père né en 1851 dans un petit village et qui, après 5 ans de service militaire, quitta sa Lorraine natale pour s'installer à Paris. Il se retrouve combattant dans le conflit franco-prussien de 1870 et dans le tourbillon des combats du siège de Paris et de la Commune. C'est donc mercredi prochain, 29 février, à 21h sur Radion. Merci de votre attention, excellente fin de soirée à l'écoute du 90.5. Au revoir.